Vous reprendrez bien un peu de caté? Une émission proposée par Anne-Elisabeth Verrière et Elisabeth Jacob.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Vous reprendrez bien un peu de caté, l'émission du service de catéchèse présentée par Elisabeth Jacob. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, et présentée également par Anne-Elisabeth Verrière.
Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir pour la troisième semaine consécutive Dom Bertrand Lesoin, prêtre de la communauté Saint-Martin et formateur à la Maison Mère. Et nous allons continuer à explorer avec vous ce thème délicat, si difficile de la mort. Et nous aimerions peut-être approfondir aujourd'hui la question du lien qui nous unit à ceux qui nous ont quittés, ces proches avec qui l'on a vécu et qui sont morts aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils pensent à nous?
Et pourquoi on dit « je lève le doigt » Je suis dans le studio, je lève le doigt. Parce que je pense aux enfants du caté, quand on leur dit « il est au ciel oui. », c'est pas si facile que ça pour un enfant
si
du caté.
Non.
Pourquoi on dit « il est au ciel » Voilà, c'est aussi une question, parce que c'est une question récurrente des enfants en caté. Mais pourquoi tu dis qu'il est au ciel?
Alors ça, c'est ce qui est fou, hein, c'est que la vie éternelle, c'est le cœur de notre foi. C'est le cœur de notre espérance. Mmh. Nos défunts sont vivants avec Dieu, en Dieu. J'en suis convaincu, et si je ne le croyais pas, je ne me serais pas fait prêtre. c'est le cœur de la foi. Et dans le même temps, pour exprimer ce qui est l'essentiel de notre foi, on manque de mots. On va parler du paradis, on va parler du ciel, on va parler des noces, on va parler du festin. Tout ça, ce sont des images. Le ciel, c'est une image. Le ciel, c'est une image du caractère, de la grandeur de Dieu, de l'infinité de Dieu. Mais ça ne reste qu'une image. Le ciel, ça n'est pas d'abord un lieu géographique où derrière les nuages se cachent nos défunts. Mais ce sont des images qui évoquent ce grand mystère de l'au-delà et de la vie éternelle. Parce que c'est vrai que cette question du « où », c'est une question qui se pose. « Où est-il ? Où est-elle ?» aujourd'hui. Et puis il y a la question aussi du comment savoir. Est-ce que je peux avoir des signes?
Un petit signe.
Et puis vous savez, il y a aussi plein de questions qui se posent. Alors, on prie pour nos défunts. Et le mois de novembre, dans lequel nous allons entrer, c'est le mois par excellence de prière pour nos défunts. Alors on se dit, je vais prier, voilà, mon défunt est décédé il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais combien de temps? Et il faut prier pour les défunts. Il y a un moment donné, on espère qu'il n'y a plus besoin de prier pour qu'ils soient auprès de Dieu, etc. Alors je dirais, pour répondre à cette question, il faut accepter, selon moi, de faire un petit détour. Il faut faire un petit détour, c'est-à-dire, où sont-ils, où est-elle aujourd'hui? Un petit détour en nous rappelant que, en quoi nous espérons comme chrétiens? On espère qu'il y a quelque chose après cette vie. Ah, c'est beaucoup plus fort que ça. Ce que nous espérons, comme chrétiens, même si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne l'espèrent plus, nous espérons que le Christ va revenir. Le Christ va revenir dans la gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le Christ va revenir parce qu'il est ressuscité, mais il y a encore un temps intermédiaire qui dure depuis 2000 ans, qui va durer, on ne sait pas en combien de temps. Et le Christ va revenir dans la gloire, et ce moment où le Christ va revenir dans la gloire, l'avènement du Christ, et qui est quelque chose de central quand on lit l'Évangile. L'Évangile, le Fils de l'homme qui va venir sur les nuées, etc. Il y a des pages et des pages et des pages et des pages d'Évangile qui nous parlent de ce retour du Christ. Nous espérons l'avènement du Christ. Et le moment où le Christ reviendra dans la gloire, c'est le moment où tous ensemble nous ressusciterons, et nous ressusciterons, nous le disons tous les dimanches dans le credo, avec souvent bien des difficultés à y croire. Je crois en la résurrection de la chair. Je pense que si on fait un sondage à la sortie des messes, ou même si on faisait un sondage parmi nos auditeurs, quel est l'article du credo avec lequel vous avez le plus de mal? C'est « je crois en la résurrection de la chair ». On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pas quelque chose? Enfin, ça nous paraît, on peut le dire entre nous, un petit peu mythologique. Et on ne voit pas trop, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Mais non, et puis en plus, bon, quand on est un peu âgé, le corps...
j'ai pas envie de le retrouver.
J'ai pas trop envie de le retrouver. Et puis après, là aussi, plein de questions. Bah, si je reste avec mon corps, d'abord, ça va être quel corps ? Le corps de mes 20 ans ? Bon, là, ça va. Ou le corps de mes 90 ans ? Et là, ça va un petit peu moins. Et puis après, vous imaginez, on va tous ressusciter avec notre chair, mais... On va tous être sur cette terre, mais on va être des milliards. Et pourtant, pourquoi nous disons cela ? Parce que si le Christ veut nous donner la vie, il veut donner la vie à tout ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas que des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres faits de chair et de sang. Et donc, d'une certaine manière, qui nous échappe, notre corps sera touché par cette résurrection à la fin des temps. Ça concerne, c'est toute notre personne qui sera comme touchée par la résurrection du Christ. Et si le Christ, et si Dieu veut nous donner la vie, il ne veut pas donner la vie à une partie de nous-mêmes, notre âme. Il veut donner la vie à tout ce que je suis. Et bien mon corps, ce n'est pas simplement un objet que j'ai. Voilà, j'ai des lunettes, j'ai un téléphone, j'ai des chaussures, mais je n'ai pas un corps. Je suis mon corps. Et d'ailleurs, si on se reconnaît les uns les autres, c'est à travers notre corps. Et on sait bien malheureusement que les personnes qui sont blessées dans leur corps suite à une agression sont blessées au plus intime d'elles-mêmes. Hein. Et donc, à la fin des temps, le Christ reviendra dans la gloire pour donner la vie à tous, corps et âme. Ça, c'est ce en quoi nous espérons. C'est ce vers quoi nous allons. Et la première qui est déjà auprès de Dieu, avec son corps et son âme, c'est la Vierge Marie dans le mystère de l'Assomption. Mmh. Et souvent, dans le mystère quand on fête l'Assomption, on a l'impression qu'on célèbre un privilège extraordinaire de Marie. En fait, nous ne faisons que, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'Assomption, contempler notre vocation à tous, déjà réalisée en Marie, Marie qui est auprès de Dieu, avec son corps et son âme élevée dans la gloire. C'est un privilège de Marie, effectivement, d'être déjà auprès de Dieu dans la gloire, mais nous sommes appelés à la même vocation que Marie. Alors, on me dit, oui, tout ça, c'est très bien, mais... Et en attendant, c'était notre question de départ, vous vous souvenez, où est-elle ? Est-ce qu'une fois qu'on est mort, on arrive dans une pièce, et puis il y a trois portes, enfer, paradis, purgatoire, et puis on est aiguillé en fonction de notre vie, vers une de ces trois portes. Nous n'avons qu'une seule vocation, c'est la vie. Dieu veut nous donner la vie. Nous sommes faits pour la vie. La vie, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est la vie avec Dieu, c'est la vie en Dieu, c'est une plénitude d'amour, c'est une plénitude de joie, c'est un dynamisme, c'est être face à Dieu, mais pas être face à Dieu toute l'éternité où on se regarde dans le blanc des yeux. Vous imaginez, ça serait effrayant, mais c'est une puissance de vie, c'est une dynamique c'est un amour qui ne cesse de rejaillir, de déborder. C'est cela, nous sommes faits pour cela. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Notre espérance, elle ne peut être que, en soi, dans la vie éternelle. Nous espérons que nos proches sont auprès de Dieu, en Dieu. On va dire, oui, mais alors, dans ces cas-là, le purgatoire, l'enfer, c'est quoi ? C'est du passé, c'est fini, qu'est-ce que c'est, etc. Le purgatoire, ça n'est pas l'antichambre du paradis. Vous savez, comme quand on va chez le médecin et puis qu'on lit un Paris Match qui a en général 5 ou 6 ans, au moins. L'amour purifie, et donc peut-être qu'il y a encore des choses qui en nous ont besoin d'être purifiées. Le contact avec Dieu purifie. Et donc le purgatoire, c'est cette étape de nous rencontrons Dieu, nous sommes mis face à Dieu, et tout ce qu'il y a en quelque sorte de repli en notre âme est comme brûlé par le grand amour de Dieu. C'est cette étape de purification. Ça n'est pas une attente, mais c'est en quelque sorte... Dieu qui investit progressivement tous les aspects de notre vie, c'est tout ce qui est plié qui se déplie. C'est cette purification qu'on appelle le purgatoire, c'est-à-dire c'est cette entrée progressive dans l'amour de Dieu. Et l'enfer dans tout ça. Là. Vous savez, l'enfer... Dans l'histoire de l'Église, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que quand on regarde les portails des cathédrales, une certaine iconographie, l'enfer est omniprésent. Et puis c'est vrai qu'il y a eu certains excès hein, où on a présenté l'au-delà, vous savez, comme une espèce de grande machinerie où on savait tout, etc. Et puis, Après, on est passé à un autre extrême, c'est que on n'en a plus du tout parlé. On s'est dit, bah, ça, c'est de l'imaginaire, c'est pour faire peur.
Ça fait peur aux enfants.
C'est pour maintenir les chrétiens dans un état d'asservissement, etc. Bon, ouvrons l'évangile, Jésus en parle. La géhenne, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que nous sommes libres. Dieu respecte notre liberté. Dieu nous appelle à la vie. Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à la joie. Il nous sollicite. Il nous invite. Et nous sommes libres. Et donc, si je dis un non définitif à Dieu, si quelqu'un pose un non définitif à Dieu, ben Dieu respecte ce choix. Et l'enfer, qu'est-ce que c'est ? L'enfer, c'est là où il n'y a pas d'amour. L'enfer, c'est là où Dieu est complètement, le Dieu d'amour est complètement absent. Alors on pourrait se dire, mais alors, je reviens, vous voyez, je fais que de répondre par des détours, mais on a besoin de détours. La question de départ, on y revient, c'est où est-il, où est-elle ? Ah, ben alors, vous imaginez si moi je vais au paradis, et puis que je ne retrouve pas. Et donc là, on est dans le studio avec Elisabeth, Anne-Elisabeth. Bon, moi, j'arrive au paradis et là, catastrophe.
Elisabeth n'est pas là.
Elisabeth n'est pas là. Anne-Elisabeth n'est pas là. Mais c'est terrible. Mais il y a des questions qui sont sans réponse parce que la question est mauvaise. Si je m'imagine au paradis et que je me dis, mais ça ne va plus être le paradis parce que je ne vais pas retrouver mes proches, mais on est un peu dans le cas de la parabole du publicain et du pharisien. Hein, le pharisien qui se dit, mais moi je suis juste devant Dieu, mais et les autres ? Donc nous savons que quelqu'un, qu'il y a toujours la possibilité de refuser radicalement l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a... L'Église n'a jamais dit telle personne est en enfer. L'Église a déjà dit il y a tel signe qui nous montre que telle ou telle personne est auprès de Dieu. C'est ça, pour ça qu'il y a des béatifications, des canonisations. On n'envoie pas les personnes au ciel par une des canonisations, mais on reconnaît qu'il y a des signes objectifs qui nous montrent que ces personnes sont auprès de Dieu. L'inverse n'est pas vrai. Nous ne pouvons que espérer pour nos défunts qu'ils soient auprès de Dieu. S'imaginer qu'ils puissent être privés de l'amour de Dieu, c'est un non-sens. C'est une question sans réponse parce que c'est une mauvaise question. Et puis alors, donc, ça pour l'enfer. Après, pour le purgatoire, on va dire bah, combien de temps on va prier. Donc moi, j'ai été pendant plusieurs années en ministère, chapelain au sanctuaire de Montligeon, un lieu de prière pour les défunts en Normandie, dans le diocèse de C. Et j'aimais bien dire que vis-à-vis de nos défunts, on peut à la fois prier pour eux et les prier. Ça nous paraît contradictoire, mais du point de vue de l'éternité de Dieu, ça ne l'est pas. Je prie pour eux, pour que, c'est ce qu'on dit dans la prière à Notre-Dame Libératrice à Montligeon, pour que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie, pour que vraiment ils soient purifiés et qu'ils accèdent pleinement à la rencontre bienheureuse avec Dieu. Et dans le même temps, nous pouvons déjà les prier. Alors, notre prière s'adresse d'abord à Dieu, mais aussi aux amis de Dieu. C'est pour ça aussi qu'on peut prier des saints. Ben voilà, on a tous des saints qu'on apprécie davantage. Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Charles de Foucault.
Nos
saints anges gardiens.
récemment. Et nos défunts. Mais notre espérance, c'est qu'ils sont saints, c'est-à-dire qu'ils vivent. Qu'est-ce que c'est qu'un saint ? C'est celui qui vit de la vie de Dieu, parce que la sainteté, c'est le mystère même de la vie de Dieu. Hein. Dieu seul est saint, 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 le Seigneur. C'est ce que nous chantons à chaque messe en tant que tel. Seul Dieu est saint, mais toute l'humanité est appelée à vivre de cette vie de Dieu. Et donc, dans notre foi, notre espérance, c'est que nos défunts sont saints, c'est-à-dire qu'ils ont reçu cette vie de Dieu. Et donc, nous pouvons à la fois prier pour eux, et on peut prier pour quelqu'un des siècles après sa mort. Parce que Dieu lui voit tout de son éternité, c'est-à-dire que ce qui pour nous est passé, présent, avenir, Dieu le saisit d'un seul regard de son éternité. Et puis à la fois, nous pouvons les prier parce que ils sont déjà auprès de Dieu. Et donc, notre espérance, où est-il, où est-elle ? Ce que je crois, ce que j'espère, c'est que celle qui est mort, qui est passé par la mort, est auprès de Dieu. Je prie pour cela, et je le prie, je la prie aussi de m'aider au long de mon pèlerinage terrestre, parce que l'amour est toujours plus fort que la mort. Et donc, dans l'amour, par l'amour, nous restons profondément reliés les uns aux autres.
Amen. Ah, Un grand merci. On n'ose pas rebondir.
Oui, oui, on est bien là. On peut espérer, enfin, je ne sais pas quel est le temps. En vous écoutant, on se dit qu'on peut espérer qu'il n'y ait personne en enfer. C'est-à-dire que personne, finalement, n'ait refusé l'amour de Dieu jusqu'à l'ultime. Est-ce que c'est utopique d'espérer ça ou de le souhaiter ?
On espère pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, la possibilité que certains refusent radicalement l'amour de Dieu, cette possibilité n'est pas exclue. En tout cas, ça n'est pas à nous de mettre des limites à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la possibilité pour chacun de dire son oui à Dieu. Tout ce que j'aime bien dire pour les personnes qui... voilà, par exemple, qui sont confrontés à une situation par exemple, d'un suicide, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ou est-ce que il n'y a pas quelque chose d'un refus de l'amour de Dieu ? Moi, je pense souvent, vous savez, au bon larron. En fait, l'épisode du bon larron ne nous est transmis que par Saint-Luc. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui a eu lieu sur le fil, à la dernière minute, qui n'a été saisi que par de rares témoins de la scène, et d'ailleurs... Saint Matthieu n'en parle pas, Saint Marc n'en parle pas, Saint Jean n'en parle pas, mais il y a eu ce moment où ce bon larron s'est tourné vers Dieu, a accueilli l'amour de Dieu. Et il a été le premier. Il a été le premier à être accueilli au paradis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui est très marquant, surtout que Jésus ressuscite 3 jours après, mais c'est aujourd'hui, c'est le temps de Dieu, c'est l'aujourd'hui de Dieu, c'est l'éternité de Dieu, tu seras avec moi au paradis. Le premier à être comme emporté, c'est vraiment l'ouvrier de la dernière heure, à être emporté dans la vie éternelle avec le Christ, c'est le bon larron, c'est-à-dire ce dialogue sur le fil de celui qui, alors qu'il n'y a pratiquement pas eu de témoin, mais a dit son oui à Dieu. Et donc, quand on voit le cas du bon larron, on peut espérer, on peut espérer pour tous.
Un grand merci, Elisabeth, Dom Bertrand, pour cette troisième émission consacrée à la mort et où sont ses proches qui viennent de mourir. Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Un grand merci à tous les deux.
Merci, Elisabeth.
Très bonne journée.
Au revoir.